Chapitre 15. Une plaisanterie d'acajou. Les préparatifs du long voyage que Corcoran allait entreprendre avec son ami Quaterkem durèrent toute la journée. Il ne s'agissait pas, on se l'imagine de reste, d'emballer des vêtements ou des vivres, mais de cacher au Marat le départ du Maharaja. Il fut donc résolu qu'on attendrait la nuit pour partir et que Sugriva seul en serait informé. Corcoran ne voulut même pas faire ses adieux à Sita, de peur de lui causer quelque inquiétude. Par bonheur, la nuit était fort sombre, et les deux amis, aînés du nègre à cajou, purent s'élever dans les airs sans être aperçus de personne. Ici, quelques lecteurs curieux de science voudra connaître sans doute la forme et le moteur de ce ballon merveilleux. Je suis forcé d'avouer, et quelques questions qu'on fasse, je ne pousserai pas l'indiscrétion plus loin, qu'il ne m'est pas permis de révéler le secret de cette admirable machine. Je puis dire seulement qu'après avoir longtemps étudié le secret du vol des oiseaux, l'inventeur reconnut, comme l'a fait plus tard le célèbre M. Nadar, la justesse du principe. Plus lourd que l'air, et qu'il abandonna complètement l'usage du gaz hydrogène et de ces immenses enveloppes qui offrent tant de prise au vent. En deux mots, la forme de mon ballon, j'emploie ce mot impropre, n'est pas autre chose que celle de la frégate, le plus rapide de tous les oiseaux, qui franchit en quelques heures 1500 lieues de mer. Quant au moteur, je dois dire à mon ami Quaterkem de garder le secret aussi longtemps qu'il jugera nécessaire de le garder lui-même. Au reste, un ciel sans nuages et une atmosphère transparente permettent de voir et d'admirer jusqu'au moindre détail du paysage. Quaterkem, assis au gouvernail à côté de son ami, se guidait au moyen des étoiles aussi sûrement qu'un marin sur l'océan au moyen de la boussole et désignait de la main les fleuves et les vallées. « Tu entends le bruit de la rivière qui coule entre ces deux chaînes de montagnes ? La reconnais-tu ? C'est la Nerbuda. La montagne de droite est l'une des Ghâts. Celle de gauche, qui s'élève vers nous, toute couverte de forêts sombres, appartient à la chaîne des monts Vindhya. Entends-tu ce murmure composé de 20 millions de voix d'hommes, de quadrupèdes, d'oiseaux et d'insectes ? C'est l'harmonie du globe terrestre qui ravissait en extase le divin Pythagore. Le grondement sourd qui domine toutes les autres voix, c'est le rugissement rauque du tigre. Cette masse sombre, que l'on distingue à peine et qui paraît se remuer avec tant de lenteur, c'est un troupeau d'éléphants qui galopent dans une rizière, écrasant tout sous leurs pieds. « Il s'agit bien d'éléphants, » interrompit Corcoran. « J'ai hâte d'arriver au camp. »« Rien de plus facile !» Quaterkem fit mouvoir un léger ressort. Le gouvernail obéit à sa main comme un enfant docile à la voix de son maître. En 5 minutes, le ballon plana au-dessus d'un camp retranché, entouré de fortes palissades et garni de 150 canons. La frégate s'abattit aussitôt. Quaterkem jeta l'ancre dans un palmier gigantesque, et Corcoran descendit avec une échelle de corde jusqu'à terre. « Attends-moi, » dit le Maharaja, « je serai de retour dans une heure. » En même temps, il s'avança sans être remarqué des sentinelles, car il était descendu dans l'enceinte même du camp et se dirigea vers la tente du général Bondokhdar Akbar, communément appelé Akbar, c'est-à-dire le victorieux, à cause de ses anciennes défaites. Akbar était assis sur un tapis. Autour de lui, ses principaux officiers fumaient en silence. « Seigneur Akbar, » dit l'un d'eux, « avez-vous reçu des nouvelles du Maharaja ?»« Non, » dit Akbar. « Il nous oublie dans son palais de Bhagavapur. » « Le Maharaja n'oublie rien, » dit Akbar. « Cependant, les Anglais s'avancent et vont nous attaquer avant 3 jours. Le Maharaja le sait-il ?»« Le Maharaja sait tout, » dit encore Akbar. « S'il le sait, pourquoi n'est-il pas avec nous ?» À ces mots, Corcoran entra. « Et qui te dit qu'il n'y est pas, Haider ? » demanda-t-il d'une voix forte. Aussitôt, tous les assistants se prosternèrent, la paume des mains élevée vers le ciel. « Le Maharaja est partout et voit tout, » dit Corcoran. « Il est l'œil droit de Brahma sur la terre, il punit la lâcheté, il devine la trahison. »« Grâce, grâce, Seigneur !» s'écria Haider, qui s'attendait à être empalé. « Qui doute de moi a mérité de périr, » dit Corcoran. « Mais je te fais grâce, Haider. Tu vas quitter l'armée. Je ne veux avec moi que des hommes qui sachent bien que Brahma m'a donné sa force et sa puissance. » Haider sortit tout tremblant, et reprit dès le soir même la route de Bhagavapur. Après cet exemple qu'il jugea nécessaire, Corcoran se fit rendre compte de la situation de l'armée et des approvisionnements. Il se montra aux soldats pour les encourager. À la nouvelle qu'il était au camp, toute l'armée poussa de longs cris de joie et alluma des torches pour éclairer sa marche. « Longue vie au Maharaja ! Longue vie au successeur d'Holkar ! Au dernier des Ragouides !»« C'est bien, » dit Corcoran, « que tous les feux s'éteignent, que tout le monde rentre sous les tentes. » Il fut obéi sur le champ. Son apparition, qui tenait du miracle, car aucune sentinelle ne l'avait vu pénétrer dans le camp, fortifia l'opinion déjà répandue qu'il était la 10e incarnation de Vishnu sur la terre. Dès que le silence et l'obscurité eurent succédé de nouveau au tumulte et à l'éclat des torches, le Maharaja alla rejoindre ses compagnons et, grâce à l'échelle de corde, remonta aisément dans le palmier d'abord, puis dans la frégate. « Je viens de faire une belle peur à un pauvre diable, » dit le Maharaja, et il raconta la scène qui s'était passée dans la tente. « Quel singulier plaisir peux-tu trouver à gouverner des traîtres et des poltrons ?» demanda Quaterkem. « Quelques jours, ces gens-là te tireront des coups de fusil par derrière. » « Ah, mon cher ami, » dit Corcoran, « c'est un dur métier que de gouverner les hommes, mais je ne connais personne qui s'en soit dégoûté. »« Et Charles Quint ?»« Bah, un pauvre diable d'empereur qui mangeait trop, qui avait la goutte et des indigestions continuelles. »« Et Dioclétien ?»« Il avait peur d'être étranglé ou empoisonné par son gendre Galerius, un beau nom de coquin. »« Mais c'est assez causé des anciens et des modernes. Allons voir nos amis les Anglais. » Leur camp ne doit pas être éloigné d'ici. Au rapport de mon fidèle Akbar, ils sont à 23 lieues au sud-est, sur une petite colline qui s'avance en forme de presqu'île dans la vallée du Kérar. Quaterkem obéissait lorsqu'un grand éclat de rire parti de l'arrière de la frégate attira leur attention. Akajou riait de toutes ses forces en contemplant un objet caché dans l'ombre. « Qu'est-ce donc ?» demanda sévèrement Quaterkem. « Oh, Massa Quaterkem !» s'écria Akajou en continuant de rire. « Vous pas fâché, vous bien rire, Akajou bon nègre, jouez bon tour !» Et saisissant entre ses bras l'objet inconnu, il l'apporta, malgré tous ses efforts, sous les yeux de son maître. À la clarté de la lampe, on reconnut Baber. L'hindou avait la bouche bâillonnée et les mains liées derrière le dos. Quant aux jambes, qui avaient été serrées aussi par une forte corde, l'hindou, jongleur et funambule de son métier, était parvenu à les dégager. « Quel vilain gibier as-tu apporté là ?» dit Quaterkem. « Faut comprendre, Massa Quaterkem, si vilain gibier embarrassait bon maître, Akajou jetait vilain gibier par-dessus bord. Mais Baber, bon gibier, pas méchant du tout. »« Est-ce qu'il a voulu s'introduire encore dans la frégate ?» demanda Corcoran. « En ce cas, jette-le par-dessus le parapet. Je ne fais grâce qu'une fois. »« Non, non, Massa !» interrompit vivement Akajou. « Moi l'avoir vu battre avec Double Face. » Baber étranglé Double Face, Akajou bien rire, Akajou content de voir le bon tour de Baber. Akajou attendre Baber sur la route, demander la recette pour étrangler les Anglais. Baber impoli, pas vouloir donner. Moi bon nègre, pas méchant du tout, abattre Baber, d'un coup de poing. Baber vouloir mordre et égratigner Akajou. Arracher cheveux d'Akajou, miauler, rugir, pleurer. Akajou très bon, Akajou retourner Baber, arracher la corde à Baber, attacher les mains de Baber, les pieds de Baber, ficeler Baber, mettre Baber dans un coin de la frégate, vouloir apporter Baber à Nini pour amuser Zozo. « Que le diable t'emporte avec ton Baber et ton Zozo !» dit Quaterkem impatienté. « Qu'allons-nous faire de ce mauvais drôle ? On ne peut pas le jeter dans les airs puisqu'il est venu dans ma frégate malgré lui. Le garder n'est pas sûr. Le déposer nous retardera. Au diable le Baber !» Ces réflexions étaient faites en français, langue inconnue à Baber, mais qui voyait assez sur le visage de Quaterkem que sa présence gênait fort les voyageurs. Quant à Corcoran, le coude appuyé sur son genou, le menton dans la main, les yeux fixés à l'horizon, il réfléchissait. Tout à coup, il prit son parti. « Délie-moi ce Baber, » dit-il. Akajou hésita. « Massa, » dit-il. « Mauvais, délier Baber, mauvais, très mauvais. » Chien galeux, Baber. Baber poignardé Akajou quand Akajou aura dos tourné. Obéis, dit le Maharaja. Cela t'apprendra à ne plus recueillir les chiens galeux dans ta frégate et à ne plus chercher des joujoux pour Monsieur Zozo. Akajou obéit. Baber, délié, se jeta aussitôt aux pieds de Corcoran. Le Maharaja le regarda d'un air sévère. Ce qu'Acajou vient de dire est-il vrai? Demanda-t-il. Babert, qui n'avait pas compris un mot du récit d'Acajou, raconta de la même façon que le nègre ce qui était arrivé. C'est bien, dit le Maharaja. Si je te dépose à terre, quel métier vas-tu faire pour vivre?
Seigneur, répliqua Babert sans s'émouvoir, quel métier pourrais-je faire, excepté celui que j'ai déjà fait?
C'est-à-dire que tu vas encore attendre des voyageurs au coin des bois? Babert fit un signe affirmatif. Tu sais, continua Corcoran, que si je te reprends dans l'exercice de ta profession, je te ferai pendre.
Seigneur, on ne change pas de profession à mon âge. J'ai 55 ans passés, mais je ne demeurerai pas dans vos états. J'irai à Bombay, où je suis encore peu connu.
As-tu peur de la mort?
Qui? Moi? J'aurais peur de rentrer dans le sein de Brahma, père de toutes les créatures. C'est bien mal me connaître.
Babert sourit d'un air superbe, et saisissant un couteau que le nègre portait à la ceinture, il l'enfonça froidement dans sa propre cuisse. Le sang jaillit à flots.
« Malheureux ! » s'écria Corcoran en lui arrachant le couteau. « Seigneur Maharaja, dit Babert, ceci n'est rien. 20 fois à la foire de Bénarès pour acquérir une réputation de piété et gagner une douzaine de roupies, je me suis fait enfoncer un crochet de fer dans le flanc. Voyez mon corps couvert de plus de 50 cicatrices. Il n'y a peut-être pas 6 de ces blessures qui n'aient été volontaires. »
Tout en parlant, il étanchait le sang et bandait sa blessure avec une serviette que le nègre épouvanté lui donna. « Massa, dit Acajou, mettre à terre ce scélérat. Moi pas vouloir l'emmener dans notre île, Babert manger, Nini et Zozo. » « Voyons, interrompit Corcoran, Babert, veux-tu gagner 100 000 roupies et te venger des Anglais ?» À cette question, l'hindou sourit à la façon des tigres.
« Seigneur Maharaja, dit-il, la vengeance suffirait, les roupies sont de trop. »
« Je te crois, dit Corcoran, car tu m'as l'air d'aimer la vengeance comme mon petit Rama aime les confitures. Mais pour plus de sûreté, je veux y joindre les roupies. Voilà déjà une bourse qui en contient 2 000.
« Seigneur Maharaja, dit Babert avec dignité, cette confiance m'honore, mais je ne veux rien recevoir de vous avant de vous avoir rendu service. Depuis que le monde est monde, depuis que Vishnu est sorti du lotus de Brahma et Siva du lotus de Vishnu, jamais homme plus généreux que vous n'a paru sur la terre. » Vous pouvez faire justice et vous pardonner. Oui, j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. J'ai fait plus de faux serments qu'il n'en faudrait faire pour que la voûte du ciel se brisât en éclats et m'écrasât sous ses débris. Mais je suis à vous désormais tout entier, et pour votre vie entière. Babert n'a jamais eu de maître. Il en aura un, désormais.
D'où lui vient cet enthousiasme subit ? Demanda Quaterkem, qui n'entendait pas l'hindoustani, mais qui regardait avec étonnement les gestes passionnés de Babert. « De ce qu'il a reconnu son maître, » dit Corcoran en français, pour ne pas être compris de l'hindou. « Ce tigre a senti sa faiblesse devant moi. Désormais, il me sera dévoué. Je m'y connais. »«
À peu près comme ta Louison. »«
Oh !» répliqua Corcoran. « Peux-tu comparer ma charmante Louison au terrible et féroce babouin que voilà ? C'est une véritable impiété. »«
Mais voici le camp anglais. Je reconnais la colline et la rivière dont Akbar m'a parlé. Jette l'ancre, mon ami, dans ce bois de palmiers à 600 pas des sentinelles. »
Puis se tournant vers Babert. « Tu te donnes à moi, dit-il. C'est bien, je t'accepte. » Et il lui tendit la main. Babert la baisa et, debout devant le Maharaja, il attendit ses ordres.